avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Erasmus fête ses 35 ans cette semaine. On va voir comment ce programme de mobilité réservé au départ aux étudiants et puis depuis qui a été très élargi a forgé le sentiment d'Europe. Erasmus a bénéficié à 12 millions de personnes. Son budget est en augmentation de 80% et ambitionne de toucher 10 millions de personnes supplémentaires d'ici 2027. Pour une Europe de jeunes, étudiants, élèves de collège, lycée, apprentis en formation, mais aussi d'enseignants, de formateurs ou d'adultes peu qualifiés, qui se rencontrent, qui partagent des expériences pour une Europe moins bureaucratique, plus incarnée et plus ouverte, notamment pour permettre à des étudiants africains d'obtenir des financements d'études en Europe. Erasmus est considéré par les citoyens et les politiques comme une des réussites les moins contestables de l'Union européenne, mais beaucoup pointent aussi sa difficulté d'accès, sa complexité financière. Alors vous pouvez poser toutes vos questions ou témoigner si vous êtes un ex-Erasmus. Appelez-nous dès maintenant sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Laure Coudrello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'agence Erasmus+ France, la France qui est le pays qui envoie le plus de citoyens Erasmus en dehors du pays, c'est ça ?
Oui. Nous sommes les premiers à envoyer à l'extérieur de la France beaucoup de nos étudiants, de nos apprentis, de nos élèves.
Voilà,
et ça depuis plusieurs années.
Ouais, confère le film L'Auberge espagnole. Également avec nous, qui va nous rejoindre, Eric Dogvada, qui était un étudiant tchadien inscrit à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne dans le cadre d'un master Erasmus Mundus en technique, patrimoine et territoire de l'industrie. On sera aussi en ligne avec Bénédicte Visonneau, professeure d'anglais, coordinatrice Erasmus+, au lycée Albert Demain à Paris, et puis également Siem Sassi à la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou, au Burkina Faso.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Tout le monde est voisin. C'est presque vrai, en tout cas, aujourd'hui, pour les 35 ans d'Erasmus+. Tout de suite, écoutez ce couple Erasmus. Roxana, 34 ans, d'origine roumaine. Gert, 35 ans, belge néerlandophone. Il a étudié le droit, elle a étudié la géographie. Ils se sont rencontrés en séjour Erasmus il y a 11 ans maintenant. Et en parlant l'anglais, qui est devenu la langue de leur couple, ils sont installés maintenant à Bruxelles. Ils ont raconté leur histoire à notre reporter, Charlie Dupio.
J'étudiais en Espagne avant de partir en Erasmus, alors je voulais découvrir un pays très différent en termes de climat, de nourriture, de population, de culture. Je voulais que tout soit différent. J'ai pensé à la Suède qui faisait partie des pays que je pouvais choisir. Et puis c'est un pays où on parle anglais. Les cours étaient tous en anglais, ça aussi c'était important pour moi.
Moi, dans mon département de droit à l'université belge, les gens préféraient partir en France ou en Italie, parce que certaines universités là-bas sont réputées et puis parce que le climat est plus chaud. Pour moi, partir en Suède, ce n'était pas indispensable à mon parcours d'étudiant, mais c'était plutôt pour vivre une nouvelle expérience, pour étudier dans un autre contexte après 5 ans passés dans le même endroit.
Et est-ce que vous vous attendiez à trouver l'amour ?
Non, mais on ne sait jamais. En tout cas, je n'avais pas d'objectif précis avant d'arriver là-bas.
Non,
moi non plus. Ce qui est marrant, c'est que pendant ma première semaine à Stockholm, à l'université, une semaine d'intégration était organisée pour accueillir tous les étudiants internationaux. Et je me souviens, le responsable du département international est monté sur scène et il nous a raconté comment, quand il a lui-même fait son Erasmus, il a rencontré celle qui est devenue sa femme. Et je me suis dit, waouh, c'est très mignon de partir un an à l'étranger et de rencontrer quelqu'un qui deviendra votre partenaire pour le reste de votre vie. Et puis, il se trouve que ça nous est arrivé à nous.
Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ?
On s'est rencontrés le tout premier jour. On était sur le même campus. Enfin, comment on peut dire ?
On était dans les mêmes logements étudiants.
Oui, dans les mêmes logements. Et moi, le premier soir, je n'avais pas d'électricité. Alors, je suis sortie pour demander une bougie, un briquet. Je ne pouvais rien voir à l'intérieur de mon studio. Donc lui était là, dans le couloir, avec d'autres amis allemands, en train de discuter. Je leur ai demandé un briquet, je leur ai expliqué ma situation. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Je crois qu'après ça, on a rapidement été dans le même groupe d'amis. On sortait tous ensemble. On vivait tous dans le même bâtiment étudiant. Et avec Gert, on a appris à se connaître un peu mieux. C'est arrivé très vite. Je pense qu'on est sortis ensemble après 2 ou 3 semaines. C'était difficile d'anticiper ce que ça allait donner dans le futur. Et puis j'avais 23 ans, il en avait 24. On était vraiment... Corrige-moi, hein, si tu veux.
Non, non.
On était vraiment jeunes. On était dans une bulle avec des amis qu'on avait rencontrés en même temps. On a commencé à être ensemble en août et autour de mars-avril, c'est le moment où on s'est dit « Ok, Erasmus arrive à sa fin, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Comment ça peut continuer à l'avenir ? Je crois que c'est là qu'on s'est dit qu'on voulait tenter de rester ensemble après l'Erasmus. Pour moi, mon année Erasmus, c'était la dernière année d'études. Après avoir fini Erasmus, je n'avais plus de raison de revenir en Espagne. Je n'avais plus de cursus universitaire à boucler. Je pouvais soit rentrer en Espagne et y chercher un travail, ou bien suivre Gert en Belgique et chercher un travail là-bas.
Mais pour moi, c'était plus simple. Je rentrais chez moi pour suivre ma dernière année d'études de droit et elle venait avec moi.
Ça a été un choc pour ma mère. L'année où j'étais en Suède, elle prévoyait plein de projets pour le jour où je reviendrai à la maison. Mais j'avais très confiance en lui et alors...
Et tu avais le choix entre revenir chez tes parents ou vivre dans une ville étudiante avec d'autres étudiants.
Oui, ça avait plus de sens. Alors voilà, on est ensemble depuis 2010. Ça fait déjà 11 ans. 11 ans donc. On s'est mariés en 2016 avec parmi les invités tous nos amis d'Erasmus. 3 d'entre eux étaient témoins à notre mariage. Et puis l'année dernière, on a eu notre fille, Émilie. On voulait lui donner un prénom international pour que ce soit facile à prononcer pour tout le monde.
Auto. Auto.
Auto.
Yes, an auto.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté cette année d'Erasmus ?
Je dirais, sans vouloir exagérer ou idéaliser quoi que ce soit, que cette année a complètement changé le cours de ma vie.
Si je n'avais pas fait d'Erasmus, je l'aurais regretté. Un jour, je me serais dit, zut, je suis passé à côté, c'est trop tard.
Beaucoup de gens qu'on a rencontrés ensuite tous les deux et qui n'ont pas pu partir en Erasmus nous ont dit, après nous avoir connus, après avoir connu notre histoire, qu'ils regrettaient de ne pas l'avoir fait quand ils en avaient la chance.
Et vous pensez que votre fille, donc il y a 1 an et demi, pourra partir en Erasmus ?
On l'espère, si c'est ce qu'elle veut.
Et si ça existe encore ?
Eh bien, on espère que ça existera encore. Ça fait déjà 35 ans que ça existe. J'espère que ce programme sera encore là pour les 35 prochaines années au moins. On parle souvent d'Erasmus comme d'un programme qui permet de rencontrer des amis, son futur mari ou son épouse. Mais c'est plus que ça. On apprend la culture du pays dans lequel on vit, son système éducatif, et on se met dans des situations complètement inédites, en dehors de sa zone de confort. Je veux dire, c'est une transformation de soi-même et de son état d'esprit.
Laure Coudrello, directrice de l'agence Erasmus Plus France, un bébé de nationalité Erasmus qui connaîtra elle aussi la mobilité européenne d'ici 20 ans.
On espère bien une mobilité européenne peut-être encore plus accélérée que celle qui a été décrite, avec la possibilité d'aller dans plusieurs pays et de ne pas en choisir qu'un seul à sa mobilité.
Le côté positif, c'est que c'est une histoire à la gloire d'Erasmus, mais entre 22h30 et minuit, on a un peu cette impression-là, non ?
Non, je pense que Erasmus, c'est un programme apprenant et puis c'est un programme d'échanges humains. Et donc, bien évidemment, l'endroit où on se trouve, les gens qu'on va croiser, ça forge des amitiés. Je crois qu'il n'y a aucun Erasmus qui soit rentré sans s'être fait un premier réseau d'amis et puis pour certains aussi de potentiels contacts pour le futur.
Le budget Erasmus Plus est en augmentation, je l'ai dit au début de cette émission, Laure Coudrello, en augmentation de 80% pour l'exercice 2021-2027, ça veut dire 26 milliards d'euros. Est-ce que ce n'est pas une dépense folle pour finalement permettre des rencontres européennes ?
Non, je pense que derrière cet investissement, un investissement qui est évidemment éducatif, il y a aussi cette idée de construire une Europe, construire une Europe avec les jeunes, et bien évidemment, et construire une Europe où les échanges sont le substrat de base. On retrouve là quelque part la naissance de l'Europe, avec cette idée de consolider la paix et puis d'entretenir des relations humaines les plus épanouies entre l'ensemble des Européens. On est un grand marché, bien sûr, mais on est aussi un tissu de relations, et c'est ce qu'on voit dans Erasmus, c'est à la fois des contacts individuels et puis c'est un tissu de relations entre tous les établissements d'éducation et de formation. Ne jamais l'oublier.
Que disent les enquêtes sur les parcours étudiants ? Est-ce qu'ils ont vraiment progressé dans l'acquisition de compétences grâce à Erasmus ?
Les enquêtes qu'on conduit, on a un observatoire de l'impact d'Erasmus+ dans notre agence, montrent, oui, qu'il y a vraiment des changements majeurs dans les mobilités, qu'elles soient courtes ou longues. La première chose, c'est être sorti pour la première fois de sa zone de confort. Quand on est très jeune, c'est un gain de maturité absolument évident au retour. Quand on est un étudiant qui est déjà aguerri, c'est des compétences, un regard différent, un enseignement différent, c'est des formes d'acquisition différentes. Et je crois que c'est là derrière, il y a beaucoup de ce tissu de relations entre les établissements qui fait la richesse d'Erasmus+.
Ouais. Alors, mais on pourrait se dire finalement, bon, ça donne un sens de l'adaptation, comme tout projet à l'international. Qu'est-ce que ça apporte vraiment à la construction européenne ?
À la construction européenne, je crois que c'est ce sentiment d'appartenir à un espace commun, d'y circuler facilement, de pouvoir s'y installer sur des périodes brèves ou longues, de découvrir dans chacun de nos pays la diversité des cultures. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez vu que le couple qu'on a décrit en introduction, il y en avait un qui venait du Sud, il avait envie d'aller dans le Nord. Il n'avait jamais découvert le Nord de l'Europe. Celui qui était en Belgique, il est allé un petit peu au Nord et se disait quand même très tenté par le Sud. Et puis, il y a l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est aussi la grande dimension de cette Europe. Et je crois que c'est ça qui fait la réussite du programme.
Et puis, il y a l'extrême sud. Éric Dogvada vient de nous rejoindre dans l'émission. Bonjour, Éric Dogvada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez eu un petit problème de transport, mais l'essentiel, c'est que vous soyez là avec nous en direct. Merci. Vous êtes un étudiant tchadien. En France, vous étudiez dans une université française, la Sorbonne. Vous avez eu votre bac en 2010 à N'Djamena. Et puis, comme plein d'étudiants tchadiens, vous avez étudié au Cameroun parce que les universités camerounaises fonctionnent mieux, il faut le dire. Vous avez étudié à l'université de Ngaoundéré jusqu'en master d'histoire politique et relations internationales. Retour au Tchad, vous avez fait un stage au musée du patrimoine tchadien. Et puis, vous êtes parti à l'université de Maroua, dans le nord du Cameroun, pour un master en sciences du patrimoine. Et ensuite, comment vous avez entendu parler des programmes de financement Erasmus dans cette université du nord du Cameroun ?
Ok, merci pour les questions posées. Si ça vous plaît, je peux un peu me présenter. Je suis Dokware Eric, étudiant tchadien, comme vous venez de le dire. En fait, durant tous ces parcours, parler vraiment d'Erasmus, c'était quand j'étais à l'université de Maroua au Cameroun. Pendant le cours, il y avait un de nos anciens qui fut aussi boursier de ces programmes. Et de là, il nous parlait d'Erasmus, il nous disait que mais dans le domaine du siège du patrimoine, vous avez beaucoup d'opportunités à faire en Europe, ailleurs, parce que ces champs est vite chez nous en Afrique. Du coup, il fallait se perfectionner davantage. Et donc, il nous parlait d'Erasmus. Et l'idée m'est venue à la tête en 2017, j'ai d'abord tenté.
Donc, vous vous êtes inscrit sur Internet, sur le site.
Exactement, sur le site. Une fois qu'il nous a parlé d'Erasmus, nous sommes partis faire des recherches sur Internet pour voir les conditions d'éligibilité, quelles sont les procédures d'admission et autres.
Les financements possibles.
Les financements possibles. On a pris connaissance et du coup, après, l'année suivante, en 2017, je me suis dit, bon, bah, cette année, je veux postuler et puis essayer de voir. J'ai tenté. Et après quelques instants, j'ai loupé. J'ai pas pu finir les procédures, du coup, j'ai abandonné.
Parce que c'était compliqué.
Bon, c'était un peu compliqué parce que l'accès à l'Internet chez nous en Afrique, plus particulièrement au Tchad, reste un défi à relever. Puisque l'Internet est trop cher et il fallait une bonne connexion, il fallait réunir tous les documents, tous les astuces possibles pour qu'on puisse être dans le bain et puis déposer tout. Du coup, j'ai abandonné.
Et vous avez retenté en 2019.
Oui, une fois abandonné, je suis reparti au Musée national tchadien, refaire les stages. Après les stages, je me suis dit, bon, c'est 2018, je vais encore tenter. J'ai réessayé, c'était les mêmes bêtises, j'ai abandonné. Ouais. 2019, bon, je me suis dit, bon, c'était pas la peine encore de retenter.
Vous lâchez pas l'affaire, vous. Hein?
Ouais, j'étais confiant. Ouais, j'ai lâché.
Hey, vous étiez confiant.
Ouais, je suis reparti encore au niveau du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat pour les stages de perfectionnement toujours, en vue de rendre plus durable mon projet de recherche.
C'est ça. Et donc d'enrichir votre dossier de candidature.
Exactement.
Et donc vous retentez, vous repostulez en 2019. Là, vous vous faites aider par un ami qui avait été dans les promos précédentes.
Oui.
Toujours pour vous dépatouiller de tout le serpent de mer administratif sur Internet. Hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Il y a même des vidéos qui vous montrent en tutorat comment accéder, mieux comprendre les conditions d'éligibilité, etc. Et vous êtes finalement sélectionné en 2020.
Exactement.
Votre visa a été rejeté alors que vous étiez éligible et sélectionné pour être boursier Erasmus Mundus, hein, qui est un programme d'excellence.
Et le souci, c'était par rapport au visa, c'était que l'ambassade ne connaissait pas bien ces programmes. Et le programme Erasmus, d'abord, si vous me permettez, je peux le dire, au Tchad, c'est un programme qui est méconnu de tous les Tchadiens, je peux le dire. Et c'est l'année dernière que l'Union européenne a pu mettre sur place une unité d'Erasmus, programme Erasmus, mais cette unité était en train de mettre les choses en valeur, enfin, de divulguer un peu le programme Erasmus à tous les étudiants tchadiens. Une fois ils sont arrivés à l'ambassade, ils disaient que non, ils veulent l'attestation.
À l'ambassade de France.
À l'ambassade de France au Tchad. Ils veulent l'attestation d'inscription, ils veulent l'attestation d'admission. Mais j'ai dit, mais c'est un programme Erasmus, je ne peux pas passer par Campus France. Du coup, parce que pour moi, c'est une admission sur l'étude dossier, je le fais et je suis admis. Du coup, ils m'ont rejeté. Je suis rentré chez moi, étant déprimé, j'ai renvoyé notre mail à l'administration pour lui dire, mais là, vous nous demandez d'être là le 1er septembre, et nous sommes le 7 septembre, jusqu'à là, je n'ai pas mon visa, voilà les conditions, ils me disent qu'ils veulent tel papier.
Ouais.
L'administration était un peu vexée.
Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Par ailleurs, et c'est vrai aussi que l'ambassade de France vous demande les mêmes conditions de ressources, et que donc vous deviez fournir des conditions de ressources, alors même que vous n'aviez pas encore touché le financement Erasmus+. Laure Coudrello, peut-être quelques commentaires par rapport à ces difficultés d'accès sur un programme qui est encore méconnu sur le continent africain et qui est encore difficile d'accès.
Alors, les commentaires que je ferai, je suis tout à fait certaine que cette difficulté, il faut s'y confronter. Il faut s'y confronter parce que on a décidé maintenant d'élargir les financements sur l'Afrique. Dans l'enveloppe des 2,2 milliards qui seront pour la période 21-27, il y a 40% qui iront au continent africain. Donc, on doit pouvoir alléger ces difficultés. Je pense qu'il y a deux choses qui ont été dites très importantes. C'est à la fois bien utiliser tous les gens qui sont déjà partis et qu'ils puissent diffuser la façon dont ils ont réussi eux-mêmes à partir. Ça, c'est le plus simple. La deuxième chose absolument essentielle et qui est en train de se mettre en place, c'est un certain nombre de bureaux, un peu comme nos agences en Europe. Il y a des bureaux qui se créent à travers les différents pays africains et qui vont, elles, diffuser sur Erasmus+, faciliter la vie des étudiants qui vont partir et évidemment simplifier tout ce qui est problème de visa avec les différents ministères de l'Intérieur à travers l'Europe qui en général sont assez difficiles.
Eric Dogwada, vous restez bien sûr avec nous. Je vais redonner le numéro de téléphone si des étudiants souhaitent vous poser des questions, s'ils aimeraient eux aussi partir, quitter leur université sur le continent africain pour perfectionner leur parcours. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Angèle. On donnera la parole d'ailleurs à Siem Sassi de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou, au Burkina Faso.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Bruxelles, je t'aime, Angèle, chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI et aujourd'hui nous célébrons les 35 ans d'Erasmus, un programme très connu bien sûr des Français, des jeunes Européens, qui favorise la mobilité au départ étudiante et plus seulement maintenant, très élargi, beaucoup moins connu sur le continent africain, alors qu'il existe maintenant des financements pour financer des étudiants, boursiers d'excellence comme vous, Eric Dokwana, qui est boursier Erasmus Mundus, mais il n'y a pas que des financements Erasmus Mundus, ça c'est pour, on va dire, les financements d'excellence, hein, Laure Coudrello,
oui,
directrice de l'agence Erasmus Plus France.
Financements d'excellence qui sont évidemment très sélectifs, puisqu'ils demandent des étudiants de tous les pays du monde, hein. C'est une grande compétition. Tandis qu'il existe évidemment classiquement des mobilités qui sont offertes par les établissements européens. Et ça, c'est très classique. Les bourses ont été un peu réélevées. Donc ça, c'est important. Et puis, en sens inverse, la nouveauté, c'est que les établissements européens peuvent évidemment aussi envoyer
des étudiants. Notamment vers le continent africain.
Voilà.
On donne la parole à un auditeur parce que bien sûr vous pouvez nous appeler soit pour nous poser des questions, soit pour témoigner si vous êtes un ex-Erasmus ou un Erasmus tout court au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à Ursile qui est un étudiant camerounais. Bonjour Ursile.
Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins et voisines.
Alors, vous avez un condisciple, codisciple Eric Dokwada, qui est aussi un étudiant, qui a étudié au Cameroun et qui est boursier Erasmus Mundus en France. Ursile, vous avez un master en agronomie au Cameroun, à l'université de Tchang, dans la partie anglophone de votre pays. Vous n'aviez jamais quitté le Cameroun.
Hein,
et vous avez fait votre dossier tout seul sur Internet pour bénéficier de ce financement Erasmus.
Oui, j'ai postulé pour un master Erasmus Mundus, en effet. mais en m'appuyant sur les différents tutos qui existaient en ligne, mais aussi avec un peu de coaching de la part de certains encadreurs et enseignants.
D'accord. Donc, les tutorats en ligne hein, qui sont disponibles sur Internet et puis des enseignants qui eux-mêmes étaient partis via des programmes Erasmus. Vous avez bénéficié de ce financement pour un master en développement rural que vous avez obtenu avec les félicitations du jury, cum laude. Et vous avez étudié en Belgique, en Chine, en Slovaquie. Vous êtes resté quoi ? Quelques mois dans chaque pays ?
Oui, j'ai commencé par la Belgique où j'ai fait à peu près 6 mois. Ensuite, je suis parti pour la Chine, où j'ai également passé 5 mois, puis je suis reparti sur la Slovaquie puis pour 2 mois, et enfin j'ai terminé en France, où j'ai passé presque un an, mais on va dire 8 mois. Quoi.
Et qu'est-ce que vous avez appris sur votre spécialité, le développement rural, sur vous-même ?
Déjà sur le développement rural, le côté positif, c'est de se rendre compte que au final, les contraintes ou bien les difficultés qui seront rencontrées, que ce soit ici en Afrique, c'est par exemple les mêmes difficultés que vous retrouverez au niveau des producteurs chinois ou bien des producteurs belges ou bien des producteurs français, même si ce n'est pas la même échelle. Sinon, au final, ils font face aux mêmes contraintes, ils font face aux mêmes challenges.
Et quel message vous souhaiteriez faire passer aux étudiants du continent qui ont l'impression parfois que tout est bouché chez eux sur le plan des cursus universitaires et de l'accès d'ailleurs à l'emploi ?
Déjà, c'est de leur faire comprendre que, comme vous dites, le fait de penser qu'on est bouché chez soi, c'est croire que l'herbe est plus verte ailleurs, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que grâce à ce programme Erasmus, là, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il y a des opportunités qui existent, que ce soit ici chez nous ou que ce soit ailleurs. Il faut juste être suffisamment attentif et s'outiller pour pouvoir tirer avantage de ces opportunités-là lorsqu'elles se présentent.
Uh-huh. Et aujourd'hui, alors où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, Ursile ?
Donc, lorsque j'ai fini avec mon master Erasmus, j'ai eu la chance d'obtenir une autre bourse pour faire une thèse à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Donc présentement, je suis inscrit en thèse.
Aux Pays-Bas ?
Oui, mais je suis plus basé au Cameroun.
D'accord. Mais bravo à vous en tout cas, Ursile. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Eric Dokwada, je vous vois, vous acquiescez par rapport à l'histoire d'Ursile. Vous vous reconnaissez aussi dans ce qu'il a dit ?
Oui, je le connais un peu plus que parlant de mobilité dans mon... Dans mon cadre, moi, j'ai fait ma pré-mobilité. C'est le premier semestre à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Après 5 mois, le second semestre, c'est à l'Université de Padova, en Italie, où on a passé aussi 5 mois de cours intenses. Et les cours sont dispensés en français, en anglais et quelquefois en italien. Et après l'Italie, le troisième semestre se passe maintenant à l'Université d'Évora, au Portugal. Une fois au Portugal, on s'intéresse plus sur les questions des paysages, sur les questions de mise en valeur du patrimoine immatériel, matériel et les systèmes de mise en valeur, les techniques de protection, les lois régissant, les monuments. Bref, tout ce qui contourne autour du monument, du patrimoine, c'est au niveau de l'Université d'Évora au Portugal. Et après, le quatrième semestre, ça sera fait au niveau de l'Université l'Université de Padova, toujours en Italie.
Padoue en Italie.
Oui, où je vais me spécialiser dans la rédaction maintenant de mon mémoire qui porte sur le thème études historiques et valorisation patrimoniale de l'industrie cotonnière au Tchad, de la société tchadienne du textile à la nouvelle société du textile du Tchad de 1965 à 2018.
Ouais, vous êtes en train de devenir un spécialiste hein, du patrimoine cotonnier du Tchad. Comment vous voyez la suite de votre parcours, Eric ?
La suite du parcours, moi, je pense bien mener à bout mon projet. Ce qui veut dire que je pense bien faire une thèse de doctorat en histoire économique et patrimoine. Mais le souci serait peut-être les financements, puisque avoir une thèse de doctorat ici en Europe, il faut du financement, il faut avoir un directeur de thèse, il faut avoir bref beaucoup de choses. Et du coup, c'est la phase de recherche, c'est la phase de prise de contact avec les directeurs de recherche. Il faut avoir un thème innovant, il faut avoir un directeur de thèse qui a le profil pour pouvoir le contacter. Et les contrats doctoraux, une fois qu'on les lance, c'est une course à la bataille où chacun postule. Et une fois le terme est retenu, vous avez le financement. J'ose bien continuer en thèse de doctorat, un jour devenir docteur en histoire et servir le monde.
Servir le monde ?
Oui.
Qu'est-ce qui a changé dans votre perception de l'Europe, Éric de Quadra ? Après tous ces mois parcourus dans des pays différents de l'Union européenne ?
Je dirais que la vie européenne et africaine sont deux vies différentes. Mais arrivé ici en Europe, je vois que beaucoup a changé en moi, je peux le dire. La manière de revoir les choses sur le plan universitaire, sur le plan social et autres. Puisque ici, il y a d'abord l'accès aux informations, elle est fiable, où tu peux déposer n'importe où, dans n'importe quelle bibliothèque, tu as l'accès, l'Internet est là, tu as accès, tu as le contact avec les anciens, tu peux discuter avec eux, faire des tours, discuter, parler de tout et de rien. Je vois que sur le plan social, on a eu à partager de différentes cultures avec d'autres étudiants venant des aires culturelles différentes des miennes, où nous avons les Cubains, les Argentins, les Américains et d'autres frères africains, marocains, camerounais.
C'est ça aussi, cet esprit européen, c'est cette ouverture sur l'extérieur.
Voilà.
Ursile nous le disait tout à l'heure dans son témoignage quand il nous a appelé. J'ai compris aussi que sur le problème que j'étudie moi-même en tant qu'agronome, j'ai compris que d'autres pays avaient les mêmes difficultés, étaient confrontés aux mêmes problèmes et peut-être ne cherchaient pas les mêmes solutions, mais en tout cas qu'on avait des problématiques communes. Est-ce que c'est la même chose pour vous ?
C'est pas presque la même chose, mais je dirais ça dépend de tout et chacun et ça dépend de la perception de chaque pays. Par exemple, au Tchad, le domaine du patrimoine, c'est un domaine qui n'est pas connu de tous, comme je venais de le dire précédemment. C'est un domaine qui n'est pas connu de tous. Peu d'étudiants, peu de chercheurs se lancent dans le domaine du patrimoine tchadien. Je peux vous le confirmer, il y a quelques-uns que je connais. Et nuit été, nos actions et nos engagements dans le domaine du patrimoine avec le directeur du Musée national tchadien, ils ont pu divulguer un peu l'information.
Mais c'est vrai aussi que votre pays est confronté à des problématiques plus urgentes, notamment le conflit au cœur du Sahel.
Exactement, puisque le Tchad se base beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan culturel, non, nous sommes au ras-le-bol. Ouais. Pas trop de financement dans le domaine de la culture.
Vous avez l'ambition de créer un jour un musée du textile.
Exactement.
Tchad. Vous y croyez ?
Je le crois fermement. Si mes projets seront atteints, j'assumerai ma responsabilité de créer un musée du textile au Tchad. Envie de valoriser le textile made in Tchad qui est fabriqué localement. D'où le feu président, paix à son âme, Idriss Déby Itno, lors de son discours a dit... C'est fini, on ne peut plus importer de tissus venant d'ailleurs. Il faut que nous valorisons notre tissu fabriqué localement grâce à notre coton.
Oui.
Et c'est ce qui fait l'objectif de mon travail dans le cadre d'Erasmus.
Bon, alors bien sûr, une affaire à suivre et encore faut-il trouver les solutions pour appliquer ce genre de desiderata. Vous restez bien sûr avec nous, Éric de Quadra. On va essayer de poursuivre pour mieux comprendre comment les étudiants sur le continent africain pourraient avoir accès à ces suppléments d'Erasmus+, maintenant pour le nouvel exercice 2021-2027, qui sont en augmentation, y compris pour les financements de projets universitaires, interuniversités, notamment entre la France, par exemple, et le continent africain. On est en ligne avec Siem Sassi. Bonjour, Madame Sassi.
Bonjour.
Vous êtes à la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'Afrique subsaharienne est devenue une des régions qui compte pour l'ouverture de l'Union européenne vers l'extérieur. Est-ce que les enseignants savent qu'ils peuvent bénéficier de ces financements, ainsi que les étudiants ?
Oui, effectivement, le Erasmus s'inscrit vraiment dans un cadre de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Ça, c'est vraiment très important à préciser. Et c'est vrai que l'Erasmus+ ne vise pas que les étudiants, mais vise aussi la qualité des enseignements, les capacités des enseignants, des institutions et puis les étudiants. Et c'est vrai que c'est plutôt ce volet-là qui est connu, mais la mobilité concerne les étudiants, mais aussi les enseignants et le personnel académique et administratif. Mmh.
Alors la délégation de l'Union européenne à Ouaga organise une série de sessions d'information dans les universités. Première session a eu lieu en décembre dernier à l'université Joseph Kizerbo, Ouaga 1 donc. Concrètement, si un étudiant aujourd'hui au Burkina Faso veut postuler au programme, il doit passer par son université, qui doit être inscrite dans le programme, mais quelles sont les universités inscrites, par exemple, au Burkina Faso à l'heure actuelle?
Alors, du précédent programme Erasmus, il y a eu plusieurs universités qui se sont inscrites. Il y a Kizerbo, il y a eu le Centre national de recherche scientifique, le Centre Murat, il y a Koudougou, l'université Norbert Zongo. Mmh. Il y a aussi centre professionnel, Don Bosco Abobo Diolasso. Mm-hmm.
Et pour le prochain exercice, là, pour l'exercice 2021-2027
ouais. Eh bien, c'est aux universités, en fait, à s'inscrire dans la programmation. Il y a énormément d'opportunités. Comme disait Laure, le budget pour l'Afrique subsaharienne a augmenté et passé de 122 millions d'euros à 570 millions. Donc, beaucoup plus d'opportunités pour les universités et les institutions africaines, mais aussi pour les institutions européennes. Elles ont plus d'intérêt à venir ici en Afrique parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour elles. Et la mobilité, les renforcements vont dans les deux sens. Donc, il y a une mobilité de l'Afrique vers l'Europe, mais aussi de l'Europe vers l'Afrique. D'ailleurs, pour donner peut-être quelques chiffres par rapport au Burkina, la mobilité de crédit, il y a eu 305 participants entre 2014 et 2020. Et parmi eux, il y a eu 234 étudiants et professeurs qui se sont rendus en Europe. Ça, c'est quand même important. Il y a eu des projets aussi de renforcement des capacités de l'enseignement supérieur qui ont été sélectionnés. Il y en a eu deux. Donc, sur 15 candidatures.
Ça veut dire, Siem Sassi, que les universités du pays, là, pour parler du Burkina Faso, que ce soit l'université Thomas Sankara à Ouaga 2, l'université polytechnique de Bobo Dioulasso, l'université, vous l'avez cité, Norbert Zango à Koudougou, etc., etc., doivent se rapprocher de la délégation de l'Union européenne pour faire partie du prochain programme qui est déjà entamé et puis surtout monter des projets avec des universités partenaires en Europe, hein.
En fait, ils doivent prendre contact directement avec les universités partenaires. En général, toutes les universités ont déjà des collaborations et donc ils doivent rentrer en contact avec les facultés, les directeurs d'université, les responsables de master, pour pouvoir justement créer ce pont et dire voilà, nous souhaitons intégrer l'Erasmus. Et donc, c'est le premier lien qui peut se faire. Nous, en tant que délégation de l'Union européenne, nous allons essayer de favoriser et offrir des plateformes d'échange entre les institutions en Europe et ici. C'est ce que nous avons fait effectivement le 9 décembre. Et d'ailleurs, le bureau Erasmus France était présent en ligne. La même chose pour le bureau Erasmus en Tunisie, au Maroc. Donc,
on le voit bien, il y a des échanges, il faut avoir des projets, il faut être force de proposition aussi en tant qu'université, et c'est vrai que ça implique donc forcément la gouvernance des universités et pas seulement les étudiants à titre individuel. Merci beaucoup Siem Sassi d'avoir été en ligne avec nous de Ouagadougou. On a des questions, si on veut bien me les montrer sur l'écran. Il y a René, par exemple, 28 ans, qui a obtenu un BTS en informatique de gestion à Lomé au Togo. Il pose la question, peut-on partir en Erasmus avec un BTS quand on est sur le continent africain? Parce que si on est avec un BTS en France, on le confirme, Laure Coudrello, bien évidemment qu'on peut partir en Erasmus.
Oui, bien sûr. Toute la formation professionnelle maintenant s'ouvre à la mobilité et la mobilité hors Europe. Donc c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on a bien montré à travers toutes ces discussions, c'est qu'on part des établissements et que il faut aussi stimuler les établissements africains à développer leur coopération avec leurs établissements européens. Et c'est ça qui va faire que cette mobilité va s'amplifier. Il y a bien sûr la volonté de l'individu d'y aller, mais il faut que, évidemment, le système s'y mette.
Une question d'Aïssatou. Elle a 23 ans, elle est étudiante à l'université Charanta Diop à Dakar, en licence 3, en attente de son diplôme de géographie et physique. Elle voudrait faire un master. Est-ce que c'est possible avec Erasmus? Et si oui, par quoi dois-je commencer?
Pareil, il faut qu'elle regarde quelles sont les coopérations avec son établissement. Et puis, s'il y a une coopération européenne, voir si elle peut y faire un Erasmus et venir en Europe.
L'université Charanta Diop à Dakar, l'UCAD, est très connue. C'est déjà une plateforme de l'enseignement supérieur. Donc, a priori, elle est dans le bon établissement pour pouvoir partir.
Elle va pouvoir regarder tous les pays européens qui s'ouvrent à elle.
Ouais. Eric, il faut des très bonnes notes sur son dossier. C'était votre cas ?
Oui, il faut de très bonnes notes, il faut avoir une très bonne lettre de motivation, avoir un très bon projet de recherche innovant qui peut convaincre le jury. Et à la base, il faut avoir une licence. Au total, avoir 180 crédits.
Ouais. Et puis une bonne dose de patience, hein, c'est ce que je retiens de votre histoire, Eric. On va donner la parole maintenant à une enseignante en France. Bonjour Bénédicte Visonneau.
Oui, bonjour Emmanuel.
Pardonnez-nous, on vous a fait attendre et c'est vrai que l'émission est trop courte. Alors vous avez été une étudiante Erasmus au début des années 90 à Gand, en Belgique. Et aujourd'hui, vous êtes professeure d'anglais, coordinatrice Erasmus au lycée, Erasmus Plus, hein, au lycée Albert Demain à Paris. Et, vous êtes deux enseignants à gérer la mobilité, bien sûr avec le chef d'établissement des élèves. Votre collègue s'occupe surtout des bacs professionnels. De quoi, alors concrètement et rapidement, finalement, de quoi vous êtes le plus fier pour vos élèves et pour vous aussi dans l'exercice de votre métier?
Alors, je suis très fière d'avoir pu accompagner avec mes collègues des élèves dans des projets très intéressants, des élèves qui sont issus de filières technologiques et professionnelles, de leur avoir permis de partir dans mobilité dans des pays divers qui n'auraient sans doute pas pu découvrir seuls. Je pense que les jeunes qui vivent une expérience, qui sont accueillis une semaine dans une famille bulgare, roumaine ou grecque ou espagnole ou islandaise, reviennent transformés. Que c'est vraiment quelque chose de, dont on peut être fier. Je suis fière d'avoir...
Et quand vous dites transformer, ça a des retentissements sur la scolarité de ces élèves?
Oui, je pense que c'est un levier de motivation très important parce que les mobilités Erasmus, ce sont des mobilités qu'on prépare aussi avant. Donc, on s'investit dans un projet et ça crée effectivement une motivation à plusieurs niveaux pour tous ces élèves-là, oui, bien sûr.
Bénédicte Visonneau, très concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'Erasmus Plus avec un budget en augmentation de 80%?
Alors, je pense que j'attends que ça continue comme c'est parti, c'est-à-dire qu'on puisse permettre à un nombre toujours plus important d'élèves et de professeurs aussi de partir en mobilité pour pouvoir créer, développer nos réseaux et créer des projets qui contribuent vraiment à la motivation de tous. Idéalement, il faudrait que tous les élèves de classe de lycée puissent participer à une mobilité au cours de leurs années de lycée. Et ce que j'attends aussi, c'est que les enseignants et les porteurs de projets soient encouragés, accompagnés, parce que c'est assez chronophage de monter des projets. Et je pense qu'on va vers une simplification
des procédures.
Des procédures et que c'est très positif, c'est ce que j'ai pu constater sur les nouveaux programmes.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Bénédicte Visonneau. Laure Coudrello, il y a eu un forum citoyen qui a été organisé en France. On constate qu'Erasmus est, c'est vrai, victime de son succès, que les Français ont de grosses attentes. Il y a aussi un sondage IFOP. Hein. Ils veulent être mieux informés pour mieux bénéficier pour eux, pour leurs enfants, des opportunités de l'Europe.
Oui, le programme fait rêver. Il fait rêver à la fois les enfants et il fait aussi rêver les parents. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Il faut qu'on soit au rendez-vous de la réussite de tous. Et c'est ça l'enjeu de la période 21-27. On aura été appuyé par le Parlement européen sur des financements ambitieux et on doit réussir cette ouverture à tous.
Réussir cette ouverture à tous, ça veut dire aussi réussir l'ouverture auprès des publics qui sont les plus éloignés de l'Europe.
Oui, ça veut dire pour nous, agence nationale, avoir une politique de promotion beaucoup plus dynamique et pour la première fois, sans doute, s'adresser directement aux utilisateurs finaux que sont les élèves, les étudiants, les parents, les étudiants. Ce que nous ne faisions pas puisque jusque-là, nous avions beaucoup travaillé avec les établissements. Ouais. Et je crois qu'il nous faut aller beaucoup plus loin.
Et aller beaucoup plus loin, ça veut dire très concrètement toucher plus d'apprentis, par exemple, qui n'imagineraient pas partir en Allemagne, je cite l'Allemagne parce que c'est un pays qui est très connu pour l'apprentissage, parfaire leur parcours professionnel.
Oui, c'est convaincre. Et convaincre, il y a deux éléments moteurs pour convaincre. C'est entre pairs, donc c'est entre élèves. Se dire que on a fait quelque chose de bien et que ça pourrait servir à d'autres. C'est aussi s'appuyer sur les enseignants, parce que beaucoup de ces enseignants sont eux-mêmes partis et sont de très bons prescripteurs de cette mobilité, puisqu'ils en connaissent les effets. Et puis, c'est convaincre aussi les parents du bienfait de cette mobilité. Et dans les derniers éléments que je voudrais rajouter, peut-être... Souvent, les parents se rendent compte du grand gain de maturité de leur jeune quand ils sont partis, même après des séjours très courts. Hein, je pense à des élèves qui sont partis 3 mois en Espagne. Quand ils reviennent, les parents et les enseignants disent au moins 2 ans de maturité supplémentaire. Et puis, ce qu'ils disent tous, c'est une sorte de fierté. Fierté d'avoir réussi à partir, d'être sorti de son confort, d'avoir réussi quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour la suite.
D'appartenir à l'Europe, de comprendre l'Europe aussi.
Bien sûr. Être avec des Européens, voir que nous sommes tous différents et ramener ces différences en les ayant appréciées.
L'Europe est comprise, populaire quand elle ne laisse personne sur le bord du chemin, mais c'est la partie la plus difficile de la feuille de route, non, finalement ?
Oui, la feuille de route, elle est exigeante sur comment convaincre des gens qui ne se disent pas que c'est pour eux d'y aller.
Ouais. Éric Dokwada, je vous laisse quelques secondes le mot de la fin, parce qu'effectivement, vous avez montré énormément de ténacité pour aboutir à cette bourse d'excellence Erasmus Mundus et étudier en France, et pas seulement en France, dans le reste de l'Europe.
Ok, les mots de fin pour moi, c'est d'encourager tous les jeunes chercheurs qui aiment bien postuler à ces programmes, de le faire et d'avoir vraiment des visions un peu élargies, envie de concrétiser leurs projets. Et je lance un appel solennel au gouvernement tchadien de penser au domaine de la culture en inculquant plus de financement pour que ce domaine soit plus connu et que les jeunes chercheurs puissent se lancer dans le domaine du patrimoine tchadien.
Voilà. Et rendez-vous dans quelques années avec vous, N'Djamena, quand vous aurez ouvert votre musée.
Exactement.
Donc, Wada, merci à vous, étudiant tchadien, l'Université Paris-Panthéon, Sorbonne. Merci à vous, Laure Coudrello, directrice de l'agence Erasmus+, France. Merci à tous nos invités. Dans quelques instants, ce sera le journal. Merci aussi à Bénédicte Visonneau, qui est professeure d'anglais, coordinatrice Erasmus+, au lycée Albert Demain, et Siem Sassi, à la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou. Demain, Amélie Beaucourt présente cette émission. Elle vous donnera la parole sur les graffitis. Pourquoi marquer la ville avec de l'art urbain? Et bien évidemment, si vous vous sentez concerné par le sujet, vous aurez la parole à notre numéro de standard habituel. Merci à vous tous. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.
Tout à l'heure sur RFI.